Les podcasts du Collège de France, Histoire.
D'un côté, il y a cette volonté de restaurer les textes corrompus par la transmission textuelle, par les erreurs des précédents éditeurs, que cette restauration prenne la forme du critère de... s'appuie sur le critère du jugement esthétique comme chez Pope, ou qu'elle s'appuie sur une démarche de scholar comme chez Théobald. Mais le but est de restaurer ce texte dans sa vérité, son authenticité originelle. Et les mots qui viennent sont « true »,« purity »,« original ». Et de l'autre côté, les mêmes, suivant une pratique des dramaturges qui, pour autant, ne sont pas éditeurs, ont pris une liberté d'adaptation, de réécriture, de transformation des pièces qui paraît tout à l'inverse d'une restauration de Shakespeare, puisque ce qui est restauré serait le nom auquel le premier texte est attribué, mais les pièces telles qu'elles sont données à voir s'éloignent d'une manière considérable de la pièce qu'elle révise et adapte, c'est-à-dire la pièce shakespearienne. La tension entre ces deux relations au XVIIIe siècle avec Shakespeare, et qui déborde évidemment le cas des éditeurs, elle peut concerner aussi le cas des critiques qui veulent lire un Shakespeare originel et en même temps peuvent trouver plaisir à des pièces qui, apparemment shakespeariennes, en sont très éloignées, ou elle peut être celui du lecteur-spectateur qui n'a pas le même horizon d'attente lorsqu'il lit une édition de Shakespeare ou lorsqu'il voit une pièce shakespearienne adaptée sur le théâtre. Cette tension peut être travaillée d'une manière plus précise avec le cas de Théobald. Donc là, je vais enjamber la pièce de 1728, sur laquelle je reviendrai la prochaine fois, pour voir comment, dans son édition des Works of Shakespeare de 1733, Théobald, finalement, donne un aboutissement, un achèvement à ce qu'il avait proposé en 1726 dans la critique de Pope du Shakespeare Restored. Cette édition de 1733 est publiée par un consortium de 6 libraires imprimeurs, 6 stationers, parmi eux évidemment celui qui a le copyright sur Shakespeare, Jacob Tonson. Le sous-titre indique clairement les principes suivis par Théobald dans cet achèvement de sa carrière de critique et éditeur de Shakespeare. Collated with the oldest copies, collationné avec les plus anciennes éditions, and corrected with notes, explanatory and critical. Et donc ici, corrigé avec des notes qui sont à la fois explicatives et critiques. Et on retrouve ici la tension complexe chez Théobald entre la critique littéraire et la pratique éditoriale. Alors, prenons les deux mots, collated and corrected. Collated renvoie effectivement à la collation des éditions quarto antérieures à la Révolution comparées aux textes de base et qui, paradoxalement, est le texte de la seconde édition de l'édition de Pope de 1728, ce qui paraît paradoxal, puisque le travail de Pope a été la cible de la critique acerbe de Théobald, mais néanmoins, c'est à partir du texte de 1728 qu'il va construire sa propre édition en le corrigeant. C'est un paradoxe qui, finalement, n'est qu'apparent, parce que, d'une part, il faut bien partir d'un état du texte qui soit celui qui reçoit les corrections, et le plus récent peut être supposé, malgré ses erreurs, comme ayant déjà capitalisé un certain nombre d'émendations. C'est ce que Pope avait d'ailleurs fait à partir de l'édition de Nicholas Rove de 1709. Et il y a une raison éditoriale qu'on a parfois oublié, c'est-à-dire le fait que partir pour une nouvelle édition de l'édition déjà là est une manière de perpétuer le copyright pour l'éditeur, considérant finalement que c'est toujours le même texte qui est protégé par ce copyright perpétué. Même si ce texte est modifié, néanmoins, on revient toujours au ur-texte, celui qui avait été entered dans le registre de la Stationer Company, celui pour lequel le libraire éditeur avait réclamé un copyright. Et cette perpétuité explique pourquoi Théobald va prendre comme texte de base Pope 1728, Pope avait pris comme texte de base Rove 1709, et Rove avait pris comme texte de base le quatrième folio, qui était le premier acquis par, pour lequel Thomson, le père, avait obtenu un copyright. Alors, la collation des quartos vient croiser cette acceptation, mais pour correction, d'un texte de base, et permet à Théobald de développer une théorie de la transmission textuelle qui est extrêmement intéressante, dans la mesure où, pour lui, il désigne les raisons qui font que, dans ces quartos d'avant le folio, on a des textes très fautifs, parce que, et qui ont été dénommés par la critique postérieure de bad quartos, des mauvais quartos, parce qu'ils donnent à lire des textes mutilés ou interpolés qui ont été édités à partir de reconstructions mémorielles ou à partir de transcriptions sténographiques. Il y a là un diagnostic très moderne, finalement, de Théobald, attribuant ceux des quartos qui sont considérés comme un texte défectueux, mais qu'il est nécessaire néanmoins de collationner dans cette série de collations systématiques de tous les états du texte, qu'il les attribue à ce qu'il décrit comme « many pieces were taken down in shorthand », donc l'allusion à ces techniques d'écriture rapide qui permettaient de prendre avec des conventions de la sténographie un texte qui était donné oralement. La shorthand pouvait être utilisée pour les sermons, pour les discours publics et pour le théâtre. Et il y a à la fois dans des textes du XVIIe siècle des plaintes de certains dramaturges contre le fait que leur texte a été publié de manière corrompue en raison du vol du texte fait grâce à la technique de la sténographie. Et entre 1580 et 1630, en Angleterre, il y a une douzaine de techniques sténographiques qui ont été proposées sous des noms divers, stenography, mais aussi brachigraphy, tachygraphy, charactery, brachigraphy et tachygraphy, reprenant des mots qui valaient pour ces mêmes techniques d'écriture rapide dans l'Antiquité romaine, ou charactery, qui revoyait au fait qu'on utilise des signes conventionnels pour essayer de capter la parole vive de l'orateur. Donc, utilisation de la sténographie, mais à la fois attestée par les textes anciens et parfois attestée aujourd'hui par une comparaison entre certaines méthodes de sténographie et des textes particulièrement bizarres, comme par exemple le premier quarto du Roi Lear de 1608, qui donne des leçons très obscures et très complexes et qui peuvent être éclairées si l'on admet qu'elles résulteraient de la difficulté de retranscrire en longhand, c'est-à-dire en écriture normale, ce qui avait été pris en note en shorthand. Ces techniques sont sans être rudimentaires, mais néanmoins posent des problèmes. Et la reconstruction du texte à partir de la transcription de la shorthand en longhand est une difficulté. Donc on a là une perception par Théobald, et il ajoutait « ou bien elles ont été imperfectly copied by ear from a representation », c'est-à-dire elles ont été mémorisées par l'oreille, et donc du coup, lorsque là encore, la retranscription de la mémoire du texte ne peut que conduire évidemment à des erreurs, des confusions, des obscurités. Donc pour lui, il faut redresser le texte par rapport à ces déformations qui viennent des representations, qui viennent des performances, de la représentation du théâtre et de la transmission textuelle, soit à partir d'une reconstruction mémorielle, soit à partir d'un texte sténographique. Et donc la recherche des plus anciennes, oldest copies, a cette double statut, c'est-à-dire à la fois parfois de permettre de remonter au plus près d'un texte dont on peut supposer qu'il a une origine auctoriale, dans la mesure où tous les quartos ne sont pas tous des bad quartos, mais d'autre part, elle permet aussi de réfléchir sur les mécanismes qui ont corrompu dans la transmission textuelle les œuvres. Et il ajoute d'ailleurs à cela une théorie qu'on retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de textes sur Shakespeare comme auteur, et pas seulement comme dramaturge. C'est le fait que pour Théobald, lorsqu'il y a plusieurs quartos, c'est le cas d'Hamlet, vous avez un premier quarto, 1603, un deuxième quarto, 1604. Et la théorie qu'élabore Théobald est de dire que souvent les premiers quartos, qui sont souvent les plus mauvais, c'est le cas d'Hamlet, exemple célèbre, le vers « to be or not to be », that is the question. Et dans cette première édition d'Hamlet, to be or not to be, height is the point. C'est-à-dire qu'il y a là un écart considérable avec Hamlet tel qu'à partir de 1604, dans ce vers le plus fameux du théâtre, il va apparaître. Et donc il a la théorie selon laquelle ces premiers quartos qui veulent être devancés toute publication par la compagnie théâtrale, étaient ceux qui, justement, étaient le plus souvent dérivés d'une reconstruction mémorielle ou d'une copie sténographique, et qu'ils étaient comme des versions mutilées, abrégées, raccourcies, pour le théâtre, de ce qui était le texte de l'auteur et qui pouvait apparaître parfois dans un quarto succès ultérieur. Et c'est le cas, par exemple, du second quarto d'Hamlet, qui a un texte au moins d'un quart plus long que le premier quarto. Ces deux théories, la théorie de la transmission fautive par sténographie et mémoire, et la théorie des quartos premiers comme étant liés aux abrégements pour le théâtre et les quartos ultérieurs comme pouvant être éventuellement beaucoup plus respectueux du texte de l'auteur, sont deux théories originales chez Théobald et qui ont, avec d'infinies discussions, fondé toute une manière d'appréhender la relation entre les différents quartos ou entre les quartos et le folio de 1623. Donc collated, collationné, renvoie à cela. Corrected se réfère aux techniques de l'établissement du texte que emploie Théobald. Et là aussi, sans voir des précurseurs, là, n'existe pas, mais il y a dans sa pratique des traits originaux qui pourront être réassumés ensuite par la critique ou la pratique éditoriale shakespearienne. La première technique de correction du texte, qui lui vient directement de la philologie classique, est la correction de l'auteur par lui-même, c'est-à-dire d'établir la confrontation systématique de passages qui sont parallèles dans différentes pièces et d'en inférer parfois que si le parallèle n'est pas absolu, la correction peut être faite en fonction de ces formes dominantes que l'on rencontre dans des passages identiques dans leur structure grammaticale ou leur expression poétique chez le même auteur. Dans ce cadre-là, c'est Shakespeare corrigé par lui-même à partir de la systématique confrontation de passages parallèles dans différentes pièces. Une deuxième technique, c'est les comparaisons entre les pièces de Shakespeare et les textes supposément lus par lui. Et ici, Théobald revendique le fait qu'il a lu les chroniques, mais qu'il a lu aussi « all the novels in Italian », toutes les nouvelles en italien, « from which our author borrowed any of his plot, à partir desquels notre auteur a emprunté certaines de ses intrigues. Donc il lit ce que Shakespeare a supposément lu et ce qui peut permettre parfois aussi, en retournant à cette lecture première, de corriger le texte. Ou encore une paire technique de correction qui est plus historique et plus philologique et qui consiste à comparer les formes verbales ou poétiques dans Shakespeare avec les autres dramaturges de son temps pour en repérer la spécificité. Et Théobald revendique le fait d'avoir lu 800 Old English plays to ascertain the obsolete and uncommon phrases in him. D'ailleurs, il a lu ces 800 pièces, peut-être, mais de façon à voir ce qui, dans Shakespeare, était des formes de la phrase, du mot, de la diction poétique, qui étaient à la fois obsolètes par rapport à des formes plus modernes, mais qui doivent être respectées par l'éditeur, et d'autre part, qui étaient spécifiques, the uncommon phrases. Et tout le travail de la critique du XXe siècle, souvent appuyé d'ailleurs sur la statistique lexicale, qui essaye de repérer quelles sont des habitudes ou des traits particuliers de tel ou tel auteur pour pouvoir parfois assigner des œuvres anonymes ou parfois discriminer à l'intérieur d'une œuvre écrite en collaboration ce qui relève d'un auteur et ce qui relèverait d'un autre auteur, entreprise extrêmement complexe, risquée, néanmoins, trouvait ici une des premières formes, c'est-à-dire une comparaison afin de marquer la spécificité shakespearienne et du coup d'avoir un appui pour des corrections dans des phrases obscures ou incompréhensibles. Et un des traits qui a fait beaucoup la fascination pour les philologues modernes de Théobald, c'est que dans certains cas, ce savoir historique, linguistique et textuel l'amenait à proposer un texte qui n'apparaît dans aucune des éditions imprimées antérieures. C'est-à-dire ici la reconstruction d'une leçon qui n'est pas assumée par la tradition imprimée, mais qui, pour les raisons philologiques, historiques et textuelles que je disais, est pour l'éditeur la plus plausible, la plus vraisemblable. Et de là, ces corrections qu'il appelle conjectures et qui relèvent de cette perspective qui va évidemment être reprise en charge par la tradition philologique et critique jusqu'à aujourd'hui. On a souvent évoqué ici l'édition du Quixote et du Quichotte de Francisco Rico. Et héritier de cette tradition, Rico propose parfois, au nom d'un savoir qu'il compare implicitement à celui de Théobald, un savoir linguistique, philologique, historique, textuel, une leçon du texte qui lui paraît la plus servantine possible, même si elle n'apparaît dans aucune édition. Alors, dans le cas du Quichotte moderne, c'est une intervention très limitée qui relève de cette conjecture philologique, dans le cas évidemment du Shakespeare de Théobald. C'est une pratique infiniment plus répandue. Dans sa préface, Théobald définit sa méthode comme un exercice de « science of criticism » ou bien encore de « literal criticism ». C'est donc une inscription de cette pratique éditoriale à l'intérieur du monde de l'érudition, et donc la distance marquée par rapport à une critique esthétique ou poétique fondée sur le goût, mais qui ne peut pas être revendiquée comme « a science » ou comme « ce literal criticism ». Et pour lui, le champ de la « science of criticism » peut correspondre à trois tâches. L'une, la correction des passages corrompus. La seconde, l'explication des passages difficiles et obscurs, et la troisième, un examen des beautés ou des faiblesses du texte. Il dit se limiter aux deux premières dans son édition de 1733, ce qui explique d'ailleurs les notes, immense note, il y a plus de 1500 notes dans l'édition, qui sont explanatory and critical. Explanatory parce qu'elles expliquent des passages difficiles et obscurs, et on conclut avec des conjectures, et critical parce que, dit-il, on ne peut parfois proposer une correction, on ne peut parfois entrer dans une difficulté que si on a considéré la composition elle-même, le texte, comme œuvre, et non pas comme trace inscrite. Et donc, du coup, la dimension critique s'introduit dans le travail du philologue ou de l'éditeur. Et pour lui, la référence ici est tout à fait forte, c'est la référence à la philologie classique, c'est-à-dire celle qui, au XVIIIe siècle, est appliquée aux œuvres des anciens, les Grecs et les Romains, pour en donner des éditions qui paraissent plus authentiques et plus correctes. Je le cite, « Le cas de Shakespeare ressemble dans une grande mesure à celui d'un auteur classique corrompu, classique parce que canonique ou classique parce que ancien, et en conséquence, la méthode pour le guérir, to cure, doit, selon toute vraisemblance, ressembler à celle utilisée pour les anciens. » Donc vous voyez qu'il avait appuyé en 1726 la légitimité de sa pratique éditoriale sur la référence à la critique biblique, et en 1733, il l'appuie sur la référence à la philologie et à l'édition des classiques anciens. Alors pourquoi schizophrénie? Parce que face à cette attitude de scholar, de philologue, d'érudit, d'éditeur, il y a l'attitude du dramaturge qui révise et adapte les pièces, y compris shakespeariennes, pour la scène contemporaine. Alors pour conclure le séminaire, je vais m'attacher quelques instants à le cas de Richard II, puisque c'est le cas où on peut comparer le texte de Shakespeare et le texte altered from Shakespeare par Theobald. 1719, la pièce a été publiée en 1720. La première série de transformations dans cette profonde réécriture se lie aux normes néoclassiques qui imposent un certain nombre de règles. Je cite Théobald dans sa préface, le prologue. Les beautés de la pièce l'ont conduit, je cite, à penser qu'elles auraient des charmes encore plus forts si elles étaient placées dans une fable régulière, maintenant l'unité de l'action et respectant la dignité des personnages, maintaining the unity of action and supporting the dignity of the characters. On a là, évidemment, le basculement d'un Théobald pour le théâtre qui pense à travers les catégories de Pope, beaucoup plus qu'avec les catégories de Théobald lui-même comme éditeur de Shakespeare, puisqu'il s'agit d'une certaine manière, alors que souvent dans The Censor, il a montré la force de Shakespeare par sa distance aux règles aristotéliciennes. Ici, il revient à l'idée que les décorum du théâtre suppose une application de ce qui a été construit comme les règles de l'unité et comme aussi dans une tragédie, le fait qu'on doit en garder la dignité des personnages, ce qui excluait toutes ces scènes si shakespeariennes où il y a comme une rencontre entre le populaire et la grandeur. Et dans le prologue, il justifie ce que j'ai cité venait de la préface. Maintenant, dans le prologue, il fait dire à l'acteur qui le déclame ceci. Immortal Shakespeare, in this tale began. Dans cette histoire, c'est l'immortel Shakespeare qui a commencé. And he wrote it in a rude historic plan. Et il l'a écrit dans un registre historique rude. Ici, on peut peut-être osciller entre le fait que ça peut être une référence à la solidité de cette trame historique ou que la notion déjà inclut une certaine rudesse, une certaine brutalité. On this rich found our author, sur ce fondement riche, notre auteur ici, Théobald, builds his play, a construit sa pièce, keeps all his gold, il en garde tout l'or, and throws his dross away, et il en rejette les scories. Et donc on voit que ici les normes à la fois du décorum, de la bienséance, des unités a fait trancher dans Shakespeare ce qui n'y correspondait pas, en a fait garder un socle historique, mais finalement, le Richard II de Shakespeare est juste le beginning de cette histoire, de ce tale. Selon une métaphore qui est très employée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire extraire le plus précieux de la gangue vulgaire, ce sera la métaphore des esprits, des essences, des textes que l'on extrait de leur gangue. Ici, c'est l'or de Richard II qui est extrait de toutes les scories qui doivent être abandonnées. Cela conduit au fait qu'un quart seulement du texte du Richard II de Shakespeare est conservé, réécrit, mais fidèlement réécrit, si j'ose dire, c'est-à-dire en gardant la structure même du texte, dans la pièce de Théobald, et cela explique aussi qu'un grand nombre de vers soient réassignés à des personnages qui ne sont pas ceux qui les prononcent chez Shakespeare. Donc une première contrainte, qui est la contrainte de ce décorum esthétique et moral. La deuxième contrainte, mais qui est aussi une possibilité, c'est le fait, comme je le disais, que la nouvelle pratique du théâtre a donné une très grande place aux comédiennes, et il y a une féminisation de Shakespeare au début du XVIIIe, féminisation du public, lectrice des poèmes, mais en même temps spectatrice des œuvres, et au début des années 1730, dans la décennie 1730, est fondée à Londres Shakespearean London Club, qui est entièrement un club réservé aux femmes, et d'autre part, féminisation de Shakespeare par l'importance de la visibilité de ces comédiennes. C'est dès la Restauration que se met en place cette fascination pour les comédiennes. On le voit très bien dans le journal de Samuel Pepys. Et de là, dans la réécriture du Richard II par Théobald, une importance qui, sans commune mesure avec le texte shakespearien, qui est donnée aux relations amoureuses, soit les relations amoureuses entre Richard II et la reine Isabella, qui conclut d'ailleurs la pièce par un épilogue qu'elle adresse aux spectatrices, et d'autre part aussi en parallèle les relations amoureuses entre Lady Percy et Homer. Et troisième élément politique, plus fondamental encore, c'est-à-dire l'altération qui inscrit la pièce dans un contexte politique où à la fois est présent la mémoire de l'exécution de Charles Ier, c'est-à-dire du danger d'une histoire comme celle de Richard II, qui est l'histoire d'un roi déposé, qu'il faut neutraliser par rapport à ce trauma qui a été l'exécution du roi, et d'autre part, dans une conjoncture où, finalement, la menace d'une restauration des Stuarts est écartée. Il y a donc là une complexité de l'intrigue de Richard II, du roi déposé, qui ne doit pas ramener à la mémoire l'exécution de Charles Ier et qui, d'autre part, ne doit pas provoquer un écho possible avec le roi régnant. Et du coup, la conséquence, c'est un affaiblissement considérable, pratiquement un effacement de toute la dimension théologico-politique du Richard II, de Shakespeare, qui est la dimension évidemment qui est la plus puissante pour l'histoire de la pièce au XIXe et encore plus au XXe siècle. On peut rappeler comment dans le King's Two Bodies, le grand livre de Kantorowicz, Richard II est une des pièces qui est un des textes les plus fondamentaux. On voit donc, ce n'est pas l'objet du cours d'analyser en détail l'adaptation de Richard II par Théobald, mais c'est pour montrer que les contraintes ou les possibilités qui gouvernent ces adaptations peuvent aussi peut-être être évoquées lorsqu'on pense aux cardinaux devenus double falsehood, c'est-à-dire à la fois le décorum et les règles, l'importance des rôles féminins et finalement une sorte de normalisation politique qui s'ajuste au contexte du temps, à la fois dans la référence et révérence à la monarchie et en même temps, comme je le disais, à ces conflits qui opposent le parti de Walpole au parti de Bolingbroke. Bon, cette division, j'en termine avec ça, de Théobald entre le respect pour le texte lorsqu'il l'édite et l'irrespect lorsqu'il l'adapte, est sans doute symptomatique d'une tension plus générale. Comme je le disais, d'un côté, Shakespeare, à ce moment-là, est chargé par cette dimension de sacralisation, ce serait une première figure du sacre de l'écrivain, pour citer le livre de Benichou, qui s'attache évidemment à une période plus tardive et au moment romantique. Mais il y a une première sacralisation de l'écrivain, ne fût-ce qu'à travers, comme je le disais, tout ce jeu des métaphores immortelles, divines, le texte sacré. Donc, à partir de là, c'est un classique qu'il faut lire dans un texte aussi authentique que peut l'être celui des anciens, voire que peut l'être celui du texte le plus sacré. Et d'un autre côté, dans les représentations, ce Shakespeare doit être ajusté à la fois au goût du temps, à la nouvelle pratique du théâtre et aux réalités politiques. Il y a donc un écart très grand entre les textes proposés à la lecture par les éditeurs et les textes qui sont donnés sur la scène, parfois par les mêmes, c'est-à-dire dans le cas de Théobald, éditeur et dramaturge. Cette tension, sans une attention à l'édition, puisque la première édition crée une nouvelle série, c'est celle de Rove de 1709, l'adaptation libre, l'appropriation sauvage des textes shakespeariens avait évidemment caractérisé la période de la Restauration, la période des années 1660 jusqu'à la fin du siècle, dans lesquelles on a de multiples adaptations des pièces shakespeariennes qui en sont des réécritures extrêmement profondes. Et finalement, il me semble que, je vais conclure avec ça, puisque j'ai commencé avec la page de titre de Double Falsehood, on peut terminer avec la page de titre de Double Falsehood, cet écart entre le texte authentique proposé à la lecture et le texte réécrit proposé à l'écoute ou à l'œil se retrouverait dans les pages de titre des éditions. Et si on peut comparer ainsi pour Théobald, The Works of Shakespeare, qui comme toutes les éditions qui l'ont précédé et toutes celles qui vont le suivre, mentionne l'idée d'un texte correct, qui promet une authenticité, une originalité, une vérité du texte que l'on va retrouver dans la série des éditions qui vont suivre, et je peux en dire juste un mot, c'est-à-dire l'édition de 1748 de Warburton, 47, celle de 1765, une des plus fameuses, de Samuel Johnson, With the Corrections. La première était, celle de Warburton mentionnait le texte est Restored from the blunders of the first editors and the interpolations of the Two Last, donc les erreurs, les méprises des premiers éditeurs, et les interpolations, c'est-à-dire des corrections qui apparaissent comme des ajouts illégitimes des deux derniers, et Warburton, évidemment, mentionne avec les deux derniers Théobald 1733 et Pope 1725. Et l'édition de Johnson dit simplement With the Corrections, et il y aura encore l'édition 1768 de Cappell et celle de 1790 de Malone, qui est une édition absolument fondamentale. Un livre lui a été dédié, voué par Margherita de Grazia. C'est une édition fondamentale parce que c'est la première édition qui décide de publier les textes des œuvres de Shakespeare dans un ordre supposément, enfin dans un ordre chronologique, qui est supposément l'ordre d'écriture des pièces. Et donc, du coup, se met en place ce paradigme qui va gouverner la critique shakespearienne jusqu'à aujourd'hui, y compris la biographie de Stephen Greenblatt, Will in the World, c'est-à-dire de mettre en parallèle l'ordre chronologique des pièces avec le déploiement de la vie de Shakespeare. Toutes les autres éditions antérieures gardaient un cadre thématique, souvent hérité d'ailleurs du cadre thématique de 1623. Comedies, histories, tragedies. Et donc l'édition de Malone qui prend ce parti est tout à fait liée avec un travail de Malone sur la biographie de Shakespeare, rassemblant tous les documents qu'il pouvait authentiques qu'il pouvait trouver, et du coup se met en place ce paradigme romantique du rapport entre la vie et l'œuvre. L'œuvre s'exprime à travers la création poétique ou dramatique, et d'autre part, les pièces de théâtre sont en fait la véritable biographie de Shakespeare. On déchiffre la vie dans l'œuvre et on explique l'œuvre par la vie. Donc, il y a là tout un déplacement, je ferme cette parenthèse, mais d'un côté, des pages de titre qui, en mentionnant le mot « corrections » ou « corrected », permettent ce retour à l'authenticité première. Et de l'autre côté, les pages de titre qui, au contraire, mettent l'accent sur le lien avec les représentations et qui finalement présente les pièces du XVIIIe siècle comme l'étaient sur les pages de titre des quartos les pièces des XVIe et XVIIe siècles, as it is acted at the Theatre Royal. Il y aurait de nombreux échos dans des quartos du XVIIe siècle de ces références aux représentations, c'est-à-dire qu'ici l'édition n'est pas détachée de la performance qui paraît être une des raisons de la corruption des textes, et donc l'édition à distance du théâtre donne le texte authentique du poète. Ici, au contraire, le texte de l'édition revendique sa relation avec les représentations et garde quelque chose à l'intérieur de ces pages imprimées de l'action de la scène. Et on voit très bien comment, dans le cas de Théobald, d'un côté Double Falsehood 1728 et The Works of Shakespeare 1733 manifestent d'entrée sur la page de titre cette dichotomie. Bien, alors je voulais mener l'analyse jusqu'ici. On pourra reprendre donc après une interruption de deux semaines le fil de cette histoire en entrant à la fois dans l'édition dont je n'ai commenté jusqu'alors que la page de titre et d'autre part dans la pièce elle-même et en posant la question qui évidemment est derrière l'ensemble de ce projet et qui était la question qui était posée dès 1728. Existe-t-il une relation authentique, véritable, entre Double Falsehood, la pièce écrite par Théobald, et cette pièce perdue de Shakespeare qu'il déclare avoir révisée et adaptée pour la sienne. Cette pièce perdue existe-t-elle vraiment? Et si elle existe, quel est le type de relation que l'on peut supposer, qui était supposée, entre le texte de Double Falsehood et cette pièce qui ne peut être, si elle existe, que le Cardenio de 1613. Merci et pardon encore pour cette interruption.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.